Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Dans une vingtaine de minutes, nous retrouvons la chronique hebdomadaire de Francis Pisani, toujours avec autant de plaisir. Nous parlons aujourd'hui des fins d'Internet. Les fins d'Internet, c'est le titre d'un livre signé par notre invité, un livre qui essaye de comprendre les enjeux, les finalités, les défis et les dangers qui guettent le réseau des réseaux.
L'Atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Juste avant la pause, Boris Baud, je soulignais ce paradoxe en fait et peut-être cette manière de comprendre la violence des attaques subies par le réseau Internet ces derniers mois, ces dernières années, et l'inquiétude de ceux que j'ai appelés les techno-réalistes, c'est-à-dire ceux qui ont une forme d'enthousiasme vis-à-vis d'Internet, mais qui sont inquiets aujourd'hui par toutes sortes d'évolutions. Eh bien, le paradoxe, c'est que le réseau est extrêmement ou de plus en plus performant. Il le sera peut-être mille fois plus dans quelques années, mais il est extrêmement performant, ce qui permet à des espaces comme Facebook, comme Twitter, donc de véritables espaces, des lieux où il se passe quelque chose, de se développer d'une manière extrêmement efficace. Et en fait, cette efficacité, ces nouveaux espaces se confrontent à un autre espace tout simple qui s'appelle le monde et qui a aussi une réalité physique qui s'oppose à ces espaces immatériels.
Alors, c'est tout à fait cela. Et on pourrait même parler actuellement d'un conflit de la pluralité de ces espaces au sens large, parce que Twitter et Facebook s'affrontent aussi. Donc c'est même au sein d'Internet hein, qu'on observe des conflits. Je dirais qu'on a une double logique spatiale de mon point de vue, celle d'entreprises qui elles fonctionnent en réseau et veulent s'approprier Internet par des approches réticulaires, c'est-à-dire que Facebook veut que toutes les pratiques passent par leur intermédiaire, veulent tout centraliser, et en faisant ça, finalement elles remettent en cause l'ouverture d'Internet tel qu'il a été conçu. Donc ça, c'est un premier danger auquel on assiste actuellement. Le deuxième danger, c'est d'autres types d'espaces, ceux des États-nations, par exemple, qui, eux, ont l'habitude d'être souverains au moins vis-à-vis de leurs citoyens, et là, ils se retrouvent en difficulté parce que très souvent, vous l'avez évoqué pour les résultats d'élections, par exemple, Internet propose souvent des façons de contourner le droit, hein, tout simplement.
Alors, je l'ai évoqué hors micro, mais je faisais allusion il n'y a pas de problème. Pendant qu'on est en train de parler des élections récentes en France, et même c'est devenu systématique en France, pendant qu'il y a des élections, on a un hashtag sur Twitter qui est Radio Londres, qui est bien connu, où on va donner des résultats qu'on prend souvent dans d'autres pays, la Suisse, la Belgique, où les médias ne respectent pas l'obligation de silence qu'ont les médias en France. Et du coup, on contourne en fait le vivre ensemble qu'on a décidé ou que les institutions ont décidé ensemble de ne pas communiquer des résultats pour ne pas influencer parfois des gens qui n'ont pas encore voté. Voilà, c'est ça l'idée aussi. Eh bien, on le contourne sur Twitter et ça nous amuse, ça amuse tout le monde, ça amuse les gens qui vont s'informer, mais ça pose question, évidemment, sur la remise en cause par un nouveau mode de communication, de règles établies et établies dans un consensus quand même.
Alors c'est ça, c'est que Internet finalement est en train de rappeler à beaucoup de personnes pourquoi on a créé des règles. C'est-à-dire qu'on est en train de réinventer, c'est un peu la politique, de nous rappeler ces règles qui sont devenues complètement tacites, on ne les discute plus, mais pour autant, dès lors qu'on les contourne, eh bien parfois Internet nous rappelle que ça n'est pas qu'une avancée, voilà, que les règles ne sont pas que contraignantes.
Alors qu'il y a... Parfois ça souligne l'archaïsme de certaines règles, mais d'autres fois ça rappelle que même si elles sont contraignantes, ces règles, elles ont un sens.
Voilà, on est dans cette tension très très forte qui n'est justement pas que un problème, mais qui en pose, et je trouve que l'exemple des élections est intéressant, qui rappelle que le droit, c'est toujours une façon de créer un ordre par rapport à des pratiques précises. Dès lors que les pratiques changent, et c'est aussi le propos du livre, c'est-à-dire que si on change l'espace, on va changer les pratiques, et du coup, le droit, très souvent, n'est plus adapté. Internet, de ce point de vue-là, pose problème, parce que comme il s'inscrit sur des spatialités qui ne sont pas du tout les mêmes, il y a un contournement en fait de la souveraineté nationale, et là aussi on découvre parfois, je trouve un peu naïvement, que c'est pas que bête, voilà, que par exemple d'encadrer la liberté d'expression, ça peut faire sens.
Et d'où l'importance aussi de regarder Internet avec un peu les yeux d'un historien, parce que ce contournement, cette attaque vis-à-vis de l'État-nation, il est un petit peu inscrit dans les gènes d'Internet. Vous rappelez le texte de John Parry Barlow, qui est considéré donc comme un des textes fondateurs de de l'Internet qui s'appelle la Déclaration d'indépendance du cyberespace. Je vais citer ce texte qui est page 27 dans votre livre. Nous sommes en train de créer un monde où tous peuvent entrer sans privilège et sans être victimes de préjugés découlant de la race, là c'est positif, du pouvoir économique, de la force militaire ou de la naissance. Vos concepts légaux de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement, de contexte ne s'appliquent pas à nous. Ils sont basés sur la matière. Il n'y a pas ici de matière. Et ça, c'est considéré comme un petit peu le texte fondateur d'Internet et de l'idéologie d'Internet. Et on voit très bien qu'il s'oppose fortement aux États-nations et à la construction des États. Ce qui est d'ailleurs plutôt encourageant et positif, mais ce qui pose problème.
Ah ben, ça pose des problèmes considérables. C'est-à-dire que c'est là que personnellement, j'y vois une forme de naïveté qu'on peut décrire très simplement. C'est-à-dire que lors des Lumières, précisément, il y a eu cette émergence de la notion de contrats sociaux. Donc, selon les philosophes, l'idée, c'était de préserver la sécurité ou de préserver la propriété ou d'œuvrer à l'égalité.
Mais rappeler que la liberté s'arrête là où commence celle d'autrui.
C'est exactement ça. Et le problème, c'est que toutes ces choses sont inconciliables. On peut pas avoir liberté et sécurité. On peut pas avoir liberté et propriété. On peut pas avoir liberté et égalité. Et la politique naît de ça. Elle naît du fait qu'on doit définir en commun les bons curseurs, je dirais, à un moment, qu'est-ce qu'on souhaite. Et on ne peut pas avoir ensemble toutes ces choses-là. Et donc, ce que je trouve problématique dans cette déclaration d'indépendance du cyberespace, c'est que d'une part, on ne peut pas y vivre. Donc, je trouve que le vœu est intéressant, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos corps? Et par ailleurs, ça ne résout pas tout, parce que ça suppose une autorégulation. C'est ça qui est derrière, c'est que finalement...
Une autorégulation qui existe, d'ailleurs. On le voit sur les réseaux, où des utilisateurs vont réguler, dénoncer les comportements abusifs, etc.
Mais parlons-en aux victimes de pornographie involontaire.
Ça marche pas toujours, ça marche un petit peu, mais l'autorégulation, en tout cas de votre point de vue, n'est pas suffisante.
Ah non, mais vraiment, absolument pas. Les problèmes de diffamation posent aussi problème. Il suffit pas à un moment que dans des forums spécialisés, des gens disent que finalement c'est faux. Je veux dire, quand des choses se diffusent massivement, ou même des choses qui ont trait à la vie privée. Et derrière ça, il y a aussi un discours qui est tenu par maintenant de très grandes sociétés comme Google ou Facebook, selon lesquelles la vie privée, finalement, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Ça aussi, ça se discute. On n'est pas obligé, parce qu'on est soumis à un dispositif technique qui pousse à la transparence, d'être collectivement d'accord avec ça.
Et là, on arrive à un dilemme simple que vous énoncez ainsi. En respectant les contrats sociaux nationaux, et pour certains, en tout cas, ça vaut le coup de les respecter, Internet est partitionné selon les nations. Et là, on quitte la majuscule d'Internet.
Alors, on la quitte, je dirais... Oui et non, c'est-à-dire qu'actuellement, cette étape, elle est engagée pour la propriété intellectuelle, où il y a déjà un partitionnement. Elle est engagée pour certains États qui limitent des services, comme YouTube, Twitter. C'est le cas en Chine, bien entendu, mais aussi récemment en Turquie. Le fait est que pour autant, la majuscule reste, et c'est ce qui crée que ça devient très complexe, parce qu'on a à la fois... cet Internet commun.
Donc je rappelle juste pour ceux qui n'étaient pas là dans la première partie, la majuscule c'est cette idée qu'il n'y a qu'un seul Internet, que c'est un nom propre Internet.
Exactement.
Que c'est un réseau de réseaux.
C'est un réseau de réseaux, il n'y en a qu'un. Et si on veut aller sur le site de RFI, je veux dire, il y en a où qu'on soit, il n'y en a qu'un. Et donc on y accède ou on n'y accède pas. Et ça, en fait, ça change, puisque actuellement, par exemple, Twitter va montrer des résultats différents selon les pays. La France est un des pays qui a le plus œuvré, par exemple, pour que le tag anti-juif soit régulé. Mais Twitter n'a pas voulu le faire au niveau mondial, parce que la notion de liberté d'expression n'est pas universelle. Et du coup, on ne se rend même plus compte qu'on n'accède pas à la même chose. Pour autant, on n'est pas dans, je dirais, des internets. On n'est pas encore non plus dans des intranets. Mais on voit une dynamique forte qui fait que Internet commence à se traduire par une pluralité d'expériences et un peu comme peut l'être un pays. La France, on pourrait dire les Frances. Mais c'est les Frances, c'est les différentes expériences qu'on a de la France. Il y a des gens qui vivent des choses très différentes en France. Pourtant, il y a quand même la France. Et pour certaines choses, si à un moment on commet un délit relativement grave, on est soumis au même droit. Alors Internet, je crois qu'il est actuellement dans cette tension, c'est l'objectif, où il est encore une unité cohérente, mais il y a de plus en plus de revendications pour intervenir jusque dans les protocoles, dans les choses les plus profondes. Pour l'instant, c'est du bricolage. Pour rendre beaucoup plus efficace et pertinent le partitionnement selon les États-nations.
Le partitionnement, la censure, la surveillance, là vous faites preuve d'optimisme, mais sous votre plume vous n'étiez pas aussi optimiste. Je vais vous citer. Internet permet l'émergence d'un espace politique mondial, mais celui-ci est largement à inventer. Le temps de cette invention, Internet aura probablement disparu.
Je le pense toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème qu'aujourd'hui Internet a est le même que l'économie, est le même que l'environnement. C'est-à-dire que ça appelle des régulations mondiales communes de s'entendre sur le plus important, sur ce à quoi on tient vraiment. Et manifestement, les États sont en concurrence et les États n'y parviennent pas. Et actuellement, Internet n'a pas les moyens lui-même de décider de ce qui convient pour les individus, et les États sont pas capables de s'organiser en commun pour le décider. Alors on voit une évolution, c'est pour ça qu'on a un croisement, on assiste à un croisement, c'est-à-dire une montée de la politique à l'échelle mondiale, c'est très progressif, c'est très lent, mais on voit qu'on assiste parallèlement, dans le même temps, à, au contraire, un repli local des identités, des valeurs, de la régulation. Je trouve ça assez triste parce que on comprend bien que le monde maintenant fonctionne à l'échelle mondiale et qu'on a besoin qu'il soit régulé à cette échelle comme Internet. C'est pour ça que le problème que rencontre Internet aujourd'hui, c'est un problème beaucoup plus large. C'est le fait que c'est un espace mondial et que la politique n'est pas organisée à cette échelle.
La politique et l'économie non plus. Vous consacrez un chapitre à la notion de gratuité sur Internet, qui est une notion qu'on peut dire extrêmement coûteuse peut-être pour les utilisateurs.
Alors effectivement, c'est un point important du livre. J'essaie de montrer comment des entreprises comme Google ou Facebook se sont construites sur la gratuité, mais de façon très habile. C'est-à-dire que comme on est dans un environnement où les ressources sont immatérielles, il y a ce qu'on appelle des économies d'échelle très très fortes. C'est-à-dire que ce qui coûte beaucoup sont les premières unités. Et on a aussi ce qu'on appelle des effets de club très forts. Ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup d'utilisateurs. Et comme, au final, ce sont des espaces, Google et Facebook vendent de l'espace publicitaire. Et donc, eux, ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait le plus d'utilisateurs possible, et donc de réduire le coût d'entrée à zéro. Et une fois qu'ils ont atteint une centralité forte, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je propose la notion d'hypercentralité, c'est-à-dire à un moment, une centralité telle qu'elle absorbe toute sa périphérie. Et c'est le principe des effets de réseau, c'est-à-dire que maintenant, même si énormément de personnes souhaiteraient quitter Facebook, ils ne peuvent pas parce que toute la force d'un réseau social, ce sont les relations sociales. Donc même une autre plateforme intéressante, plus à la mode ou autre, a beaucoup de mal à émerger parce qu'elle est vide. Et l'hypercentralité, c'est ça. Et donc la gratuité a permis de construire ça. Mais l'hypothèse que j'émets dans l'ouvrage et dans le précédent, c'est que ces entreprises ne renvoient rien de connu. On croit pour l'instant que ça renvoie du connu parce qu'elles ont atteint une taille en termes de chiffre d'affaires qui est proche de ce qu'on peut connaître. On dit voilà, maintenant les grandes entreprises mondiales, elles ont très haut numérique. Mais elles ont 10-15 ans.
Et on ne sait pas où elles vont.
Elles commencent à peine et pour l'instant, elles ne vivent que sensiblement de la publicité, ce qui en termes de modèle économique est relativement simple. Maintenant qu'elles ont cette centralité, elles vont avoir des systèmes de monétisation beaucoup plus divers et puissants. Et là, on va être vraiment mais confronté à des situations sans précédent.
Et des systèmes de monétisation, donc monétisation, c'est le terme qu'on utilise pour dire qu'on va gagner de l'argent, qui ont la particularité d'être un petit peu basés sur des mensonges. C'est-à-dire que vous avez cette formule, les transactions économiques ne sont pas des fins, mais des moyens, c'est-à-dire où les transactions proposées, en gros, on va consommer chez elles, mais contrairement à toute l'offre ou une grande majorité de l'offre qu'on a connue jusqu'à maintenant, on va consommer gratuitement parce que, ça c'est une formule qui a été beaucoup reprise, le produit, c'est nous
bien
qui
sûr.
Les intéressons.
C'est très juste la raison pour laquelle on comprend pas bien comment changent les politiques, par exemple, de confidentialité, de vie privée, de traitement des données, de stockage des données, c'est tout simplement qu'elles sont pas faites pour nous. Maintenant, ce débat est engagé, je dirais tant mieux, mais il s'explique simplement. C'est-à-dire que dans les années 90, il a été décidé que Internet devenait privé. Donc on sortait d'une fonction publique qui était destinée à la recherche et à l'armée, et ça devenait un outil de communication privée, donc qui passe par des FAI, qui passe par des fournisseurs d'accès à Internet, qui passe par des entreprises privées de services, etc. Et depuis, en fait, au lieu de continuer une démarche de standard, en fait, et de protocole ouvert, eh bien, on a laissé émerger des acteurs comme Facebook ou Twitter, qui sont totalement privés, et beaucoup n'en ont pas conscience. Il y a beaucoup d'utilisateurs d'Internet pour qui le mail, Facebook, Twitter, c'est un peu pareil. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Dans un cas, on a des entreprises privées qui développent leurs propres services avec leurs règles. Ils décident de ce qui convient, de ce qu'on a le droit de mettre ou pas. Dans l'autre cas, ce sont des standards décentralisés, comme le web et le mail. Donc la raison pour laquelle on a développé Facebook ou Twitter, c'est pas parce que c'est plus efficace. C'est simplement parce que on a laissé complètement ouvert à ce type d'initiative, tout simplement, la création des espaces d'interaction d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est pas banal, hein, de se dire que l'essentiel des relations sociales se passe dans des espaces privés où une entreprise décide de si on a droit de montrer un sein nu ou pas. Par mail, personne nous décide de ce qu'on a le droit d'envoyer ou pas.
Et c'est là où c'est inquiétant, parce que si nous avons réussi à construire des sociétés modernes, dynamiques, démocratiques dans une certaine limite, mais quand même, c'est parce qu'on a fait des lois, parce qu'on a beaucoup discuté, beaucoup parlé, et dans ce monde où ces entreprises sont de plus en plus puissantes et de plus en plus utiles, eh bien, les lois, ce sont les conditions générales d'utilisation qui sont décrétées de manière unilatérale et qui changent régulièrement.
Exactement. Parfois, il faut être actif pour rétablir un statut antérieur. C'est à nous-mêmes de faire une démarche. Ça n'est pas évident. Et voilà. Et donc, ce débat, il est maintenant, je pense, engagé. Mais les solutions sont pas évidentes du tout. Parce que, bien sûr que ces conditions générales doivent de plus en plus se plier à des réglementations européennes ou américaines. Et par ailleurs, vous comprenez bien que si, à un moment, Google doit se plier ou Facebook doit se plier à toutes les réglementations nationales, on va assister, en fait, à une déconstruction totale de ce qui peut être un espace commun. Donc c'est pour ça que l'enjeu est vraiment difficile. Hein. Moi, je ne prétends pas apporter de réponse à ce problème. Je pense que, par contre, il faut se le poser, parce que c'est un problème politique. C'est-à-dire qu'on doit vraiment décider de comment va gérer cet éclatement d'Internet, parce que c'est aussi ce que je dis dans l'ouvrage. Internet, paradoxalement, c'est aussi le moyen de l'émergence d'une politique mondiale. C'est aussi un moyen inédit pour les individus d'échanger à l'échelle du monde, venant de cultures, d'identités très variées, mais qui se retrouvent dans des intérêts communs.
Alors, on n'a pas pu parler de tout, il nous reste pas forcément beaucoup de temps. Je veux bien qu'on aborde cette idée, donc vous l'avez mentionné, de décentralisation, qui est en fait le principe d'Internet à son origine, un réseau décentralisé qui lui permet de résister à des attaques, etc., entre autres. À cette hypercentralité, on l'a évoqué aussi avec des grandes entreprises, Facebook, Twitter, Google, qui sont en train de recentraliser le réseau, et même le recentraliser dans un pays, les États-Unis, qui n'est pas forcément un bon élève en termes de respect de la vie privée des internautes dans le monde. Et bien évidemment, cette hypercentralité, c'est un synonyme de vulnérabilité à nouveau.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est c'est la dernière partie de l'ouvrage. Internet étant maintenant transversal dans énormément de pratiques, que ce soit de loisirs, d'information,
de travail,
d'innovation, voilà,
de rencontres,
travail, de rencontres. Enfin, c'est vraiment une des dimensions de notre quotidien. Eh bien, il a ouvert énormément, en fait, c'est une image, mais de portes sur notre vie privée, sur notre existence, sur des dépendances. Et dès lors que en fait, il est beaucoup plus vulnérable qu'il n'y paraît, eh bien, c'est aussi une fragilité, parce que cette vitesse de développement fait que on a du mal soi-même à se rendre compte de la nature de notre exposition. On a du mal à savoir quels sont les moyens, si on en prend conscience, d'y répondre. Et les vulnérabilités sont maintenant assez importantes. Les exemples sont très nombreux, hein, mais de, par exemple, la webcam qui peut être allumée, le fait qu'on puisse perdre ses données, le fait, lorsqu'on est une entreprise, de ne même pas savoir si on est surveillé. Parce qu'on a, ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair dans l'esprit de beaucoup de gens, mais les entreprises en ont pris conscience, tout du moins les grosses. C'est que maintenant, elles ne savent même pas qu'elles sont surveillées. C'est-à-dire que la sophistication des dispositifs de surveillance fait que, lorsqu'on le sait, c'est déjà pas mal. Ça ouvre quand même des questions un peu inédites, parce que l'espionnage, c'est pas nouveau. Je crois que, d'ailleurs, on en a pas assez parlé, je trouve, dans le débat sur Snowden, mais ce sont des pratiques très anciennes. Ce qui a changé, et ça a trait à l'hypercentralité, c'est le fait que les moyens sont simplifiés. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut assez facilement allumer le micro d'un téléphone. Avant, il fallait aller sur place, installer un dispositif, récupérer l'information. Enfin, c'est tout ça exposé beaucoup plus. Et il fallait déjà avoir une idée de qui on surveille. Voilà. Et là, il y a même un débat sur pourquoi une surveillance massive, pourquoi surveiller tout le monde. C'est vraiment un enjeu, je pense, qui a trait, comme vous dites, à l'hypercentralité. C'est-à-dire le fait que c'est décentralisé techniquement. techniquement. C'est très résistant au niveau du dispositif Internet d'infrastructure globale, mais par contre, ponctuellement, chaque nœud est très fragile. C'est-à-dire notre téléphone portable, notre ordinateur, le serveur d'une entreprise. Or, dans notre quotidien, ce qui compte pour nous, ce sont les nœuds. Bien sûr, l'effondrement global d'Internet serait une catastrophe.
Les nœuds, c'est nos points d'entrée.
Tous ces points d'entrée. Et d'ailleurs, la surveillance passe aussi par d'autres types de nœuds, qui sont les interconnexions de réseau. C'est là, en fait, qu'il y a des fragilités. Et donc, pour juste indépendamment, vraiment, on n'est pas obligé de parler de ce que ça représente pour, je sais pas, pour Renault, pour des Total Elfina ou autre, mais c'est même pour notre quotidien, je veux dire, il y a, par exemple, dans le journalisme, il y a une prise de conscience très importante de ce que représente cette vulnérabilité. Et actuellement, ça pose des questions de confidentialité des sources,
de protection des sources.
Voilà, et c'est pas anodin du tout. Je pense que les démocraties doivent vraiment prendre en main très sérieusement ces questions-là.
Les fins d'Internet, c'est un livre publié aux éditions FIP, FYP, dans la collection Stimulo. Infos et liens supplémentaires sur le site de l'Atelier des médias. Merci Boris Baud.
Merci.
Bonne continuation.
RFI.
Je suis sûr d'une chose. Twitter, les blogs, les médias enrichis, toutes ces choses n'ont aucune profondeur. Elles ne dureront pas. Et je refuse de me laisser distraire par ce qui est à la mode.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Maalouf.
Comment ça va ?
Très bien, et toi ?
Ça va très bien. Tu es retourné en Espagne après un quasi-tour du monde, c'est ça ?
C'est ça, je suis à Barcelone.
Et tu viens d'envoyer une note au responsable de l'innovation et de la technologie de la ville de Los Angeles. De quoi il s'agit ? Raconte-nous.
Écoute, une partie de mon récent voyage, qui m'a donc permis d'aller à Songdo en Corée, à Séoul en Corée aussi, à Singapour et à Hyderabad en Inde, s'est fait dans le cadre d'un cours à l'Université de Californie du Sud, donné avec le professeur François Barre. C'était une expérience et les étudiants ont participé au voyage grâce au recours à des centres de téléprésence de Cisco. À chaque étape, j'y amenais des personnalités locales et ils les interviewaient depuis Los Angeles. Et plutôt que de leur demander une synthèse sans fil conducteur à la fin, nous les avons chargés de remettre à Peter Marx, le responsable de l'innovation et de la technologie de la ville, un mémo suggérant quelques leçons à tirer des villes asiatiques visitées. Il s'intéresse d'ailleurs surtout au transport et à la participation citoyenne. Et je me suis livré, par amusement et par souci de participation égalitaire, au même exercice avec une liste de 10 points publiés sans ordre particulier, glanés au cours de ce voyage de 3 semaines.
Quels sont donc les principaux points ?
Le premier point, c'est que les villes anciennes qu'on essaye de rendre plus intelligentes ne devraient pas essayer d'intégrer les différents systèmes informatiques. C'est un casse-tête inutile. Il suffit de partager les données signifiantes, celles qui permettent de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise à Séoul. Le deuxième point, les capteurs sont trop chers pour encore quelques années. La collection de données étant indispensable, autant avoir recours au smartphone des citoyens. Ainsi, Séoul encore a dessiné le trajet de ses bus de nuit en partant d'une carte des lieux où les appels nocturnes à partir d'un mobile étaient les plus nombreux. Le troisième point concerne les hackathons, ces réunions de hackers pour résoudre un problème. Ils peuvent servir à améliorer la ville. Ils poussent municipalités et entreprises à ouvrir l'accès à leurs données et sont un début de participation citoyenne. Je l'ai vu à Singapour et à Hyderabad. Le quatrième point, c'est que cartographier la ville de façon sophistiquée et interactive rend les informations compréhensibles et la visualisation des données facilite le dialogue avec les citoyens. Et ça, je l'ai vu partout, à Séoul, à Songdo, à Singapour et à Hyderabad.
Là, il s'agit de points assez techniques. Est-ce que tu as vu d'autres choses ?
L'heure de l'agriculture urbaine et des constructions vertes a sonné, c'est mon cinquième point. Elle peut être avancée par la réalisation de projets pilotes avec financement public et privé. Je l'ai vu à Hyderabad et à Singapour. Un autre point un peu moins technique, dans une ville comme dans un quartier, le design intégré qui permet aux habitants de se rendre à pied ou en bicyclette de chez eux à leur travail et aux rues ou centres commerciaux dont ils ont besoin, peut changer la dynamique des villes et leur consommation énergétique. C'est là-dessus qu'est basé Songdo. Le septième point, c'est qu'aucune ville ou même quartier nouveau n'est attirant, mais l'urbanisation croissante fait que nous ne pourrons pas échapper aux problèmes posés par leur création. Et plus que sur l'objectif final, la création d'une ville nouvelle, c'est sur le processus d'élaboration qu'il faut travailler, et la modélisation peut aider, mais je crois que Songdo ici sert plutôt de contre-exemple.
Merci Francis Pisani. Pour retrouver l'intégralité de ces 10 points que tu t'es permis de donner en conseil à la mairie de Los Angeles, ce sera bien entendu sur ton blog de l'Atelier des médias avec la version audio longue de cette chronique. On peut aussi te retrouver sur les sites de La Tribune et de L'Opinion. On peut enfin te lire sur ton blog francispisani.net. À la semaine prochaine Francis.
À la semaine prochaine Zian.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 331 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadaoui, Ismaël Alissat, Jamel Belayachi, Johnny Bissakonou, Simon De Creuse et Ziad Malouf. J'en profite pour remercier infiniment toute notre équipe, toute mon équipe qui abat un travail monumental chaque semaine. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur atelier.rfi.fr, sur mondoblog.org, sur libiablog.org et bientôt sur arablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.